Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui, avec moi dans le studio, Pascal Évieux, membre des collectives, une conglomération de femmes qui se sentent concernées par le sort qui est fait aux femmes depuis des temps immémoriaux jusqu'à maintenant et qui sont déjà venues un certain nombre de fois à la radio, qui font des permanences à l'ESCDD et qui propose à l'occasion de la journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes, lundi 24 novembre à 17h30, salle ABC de l'ESCDD, ce film « Violence conjugale en guise d'amour » qui sera suivi d'un débat et une exposition permanente à l'ESCDD le 24 novembre à 17h30 et aussi le mercredi 26 novembre de 11h30 à 16h, une expression collective, un collage en patchwork sur le thème « Les violences ordinaires faites aux femmes ». Pascal, bonjour.
Bonjour Louis.
On t'a déjà eu, comme je le disais, plusieurs fois à la radio, tu vas finir par être une habituée. Et donc tu es venu présenter vos futures actions. Peut-être pourrais-tu quand même présenter les collectives.
Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, je suis venue pour parler des événements, de ce que nous organisons dans le cadre du 25 novembre, qui est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Donc toutes les années, c'est un moment où les collectives choisissent d'être bien visibles et de marquer l'événement, tout comme le 8 mars, qui est la journée internationale des femmes, où nous sommes présentes aussi. Mais en réalité, les collectifs, c'est un collectif qui n'a pas choisi de se constituer en association. C'est un collectif qui assure une présence et une veille sur le territoire de Di et du Diwa pour accompagner en fait les organismes qui existent et qui sont des institutions et qui sont en charge de veiller à l'application des droits des femmes. Notre rôle, c'est vraiment d'accueillir, d'orienter des femmes, de les écouter, de les soutenir et de les informer sur ce qui existe sur le territoire qui peut les aider à solutionner une question ou un problème qu'elles rencontrent dans la façon de mener leur vie. Donc nous sommes en relation avec les professionnels. À l'origine d'ailleurs, c'était beaucoup plus institutionnel que maintenant, puisque en 2009, il y avait la mission locale, il y avait des assistantes sociales, il y avait donc le Centre d'information des droits et des familles, de droits des femmes et des familles.
Il y avait le département avec Madeleine Kölsch peut-être aussi, non ?
Marie-Madeleine Kölsch, c'est carrément l'État, hein, c'est la chargée de mission aux droits des femmes
au
niveau du pour le département de la Drôme, mais qui dépend bien des services de l'État, parce qu'en général, quand on parle du département, on parle des services du Conseil général, c'est-à-dire du pouvoir décentralisé, alors qu'elle, elle est dans le déconcentré. Elle fait partie des services de l'État, mais basée sur le département de la Drôme. Et donc, c'était ces personnes-là qui étaient à l'origine de la création des collectives et aussi, d'ailleurs, la conseillère conjugale et familiale du centre de planification qui voulait intervenir en milieu scolaire, c'est-à-dire en amont des violences, au niveau de l'éducation, auprès des jeunes, donc, pour parler d'égalité et de respect. Et ça a été l'angle d'attaque de la création de ce collectif, auquel se sont joints des bénévoles, dont je fais partie. Et depuis 2011, oui, je pense que c'est 2011, c'est essentiellement maintenant l'équipe des bénévoles qui assure les missions des collectives.
Mission que tu viens de lister et que vous assurez en proposant ces permanences. Puis, quels autres moyens utilisez-vous pour lutter pour cette cause ?
Pour être présente, alors il y a plusieurs choses. D'abord, on essaie d'être visible et d'avoir un numéro de téléphone. Enfin, on essaie et on a. On est visible, on a un numéro de téléphone, on a une adresse mail qui est collective au pluriel di@gmail.com et on a réussi depuis 2 ans c'est la troisième année maintenant, à adosser notre activité à l'espace social et culturel du DIWA, de façon à obtenir un local où mettre de la documentation, un bureau sur réservation pour accueillir les gens quand ils en ont besoin, et assurer des permanences qu'on faisait jusqu'à présent le mercredi, jour de marché, pour permettre aux femmes qui habitaient loin de venir nous voir, et dont on s'est rendu compte que c'était pas obligatoirement la meilleure solution. Donc on est en train de s'organiser différemment, et entre autres, par exemple, d'être présente à l'espace social les vendredis matins tous les 15 jours, en accompagnement des permanences du Centre d'information des femmes et des familles, où une conseillère juridique et une psychologue viennent assurer sur rendez-vous ou sans rendez-vous, selon le cas, du conseil aux femmes, pour le respect des droits des femmes et dans le cadre ou non des violences conjugales.
Pour parler de cette visibilité, hein, parce que, rappelle-toi, pour un genre de festival, une personne qui faisait partie de votre collectif, à savoir Sylvie Renaud, a reconnu qu'effectivement, et toi-même le fait, que vous regrettiez vous-même que la portée de votre action ne soit pas aussi grande que vous le souhaitiez, que pas tant de femmes que ça venaient vous interpeller et vous demander votre soutien.
Pas assez utilisé, pas assez connu, et surtout quand on découvre après coup des drames qu'on n'a pas vu venir, de personnes qu'on côtoyait dans la rue et qu'on n'a pas pu aider, avec lesquelles on n'a pas pu anticiper sur la difficulté, c'est quelque chose qui nous fait de la peine, quoi, puisque notre volonté est d'éviter que des femmes soient isolées dans des difficultés dont il est difficile de se dépêtrer seule. Donc c'est vrai que cette permanence, ben on était bien intentionnés, on a tenu pendant pratiquement un an et demi des permanences, en se rendant compte que finalement, en étant présente sur le marché, par exemple, c'était pas pour le genre de festival d'ailleurs, c'était pour le triptyque des féroces, pour les 5 activités qui ont été mises en place dans le cadre de l'égalité entre les femmes et les hommes, dans la quinzaine de l'égalité. Et là, on a tenu un stand sur le marché. Et on s'est rendu compte que là, on allait au-devant des gens, on présentait notre plaquette, on expliquait ce qu'on faisait, etc. Donc, on a besoin d'être beaucoup plus à l'extérieur. Pas obligatoirement que des personnes viennent dans un local où on n'est pas trop sûr que quelqu'un va nous voir ou pas nous voir rentrer. On a besoin d'être assez anonyme pour venir. Donc ça nous a servi de leçon. Donc on réfléchit à comment agir autrement en étant dans l'espace public et visible mais pas trop, c'est-à-dire trouvable sans stigmatiser les personnes qui viennent nous voir. Donc ça, c'est encore en cours de réflexion, mais on va trouver des solutions. L'idée de tenir un stand sur le marché est vraiment encore d'actualité. Et les émissions, par exemple les interviews à Radio DIWA, c'est important. Moi, je trouve que c'est très important qu'on parle sur les ondes, que les journaux relayent notre action. Et l'idée que vous nous avez proposée, qui est d'arriver à assurer des émissions régulières sur le sujet des préoccupations des femmes, est quelque chose que nous retenons et que nous espérons vraiment mettre en œuvre dès 2015.
Ce serait un tel cadeau que vous nous feriez d'utiliser notre outil pour votre propre cause, en fait.
Oui, mais en plus, je trouve que c'est un excellent outil. Alors, pas pour le fait qu'on peut l'entendre partout, à tout moment, mais justement, on peut l'entendre partout, à tout moment, grâce au site. Et le site, vous y relayez des informations, il y a de la documentation, il y a le lien qui permet de réécouter l'émission autant de fois qu'on veut, quand on veut. Attendre que la personne qui nous fait subir des pressions soit partie pour écouter l'émission sur le site internet et puis effacer l'historique, ça peut se faire, quoi. Donc moi, je trouve que c'est un très bon service qu'on a sur le territoire, même si de chez moi, je n'arrive pas à capter Radio DIWA.
Mais c'est pas grave parce que tu as internet, si je ne m'abuse.
Oui,
et justement,
voilà.
Tu vas sur le site et tu fais ton shopping.
Voilà, exactement.
C'est parfait, je te remercie ô combien, Pascal. Mais RDIWA n'est pas le sujet de la conversation, on est là pour vous aujourd'hui, comme souvent. Et donc, là, je vois sur cette affiche que nous avons placardée sur notre entrée, il est distingué les violences conjugales et les violences ordinaires. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, y a-t-il tellement de violences différentes que malheureusement les femmes subissent ?
Oui, alors ben justement, l'année dernière et les années précédentes, nous avons beaucoup insisté sur les violences conjugales. Et nous avons d'ailleurs, en partenariat avec Kate Opestel, diffusé un film qui s'appelait « Violences conjugales en guise d'amour », qui était suivi d'un débat. Et c'est ce film pour lequel nous avons obtenu le droit de le diffuser dans un cercle privé en réunion de travail et que nous allons rediffuser pour une réunion d'échange lundi 24 au soir à 17h30 à l'espace social dans la salle ABC et qui sera suivi d'un échange sur le sujet pour des personnes qui nous ont demandé de reprojeter ce film qui était fait de témoignages de femmes victimes de violences et d'hommes auteurs de violences. Et c'était vraiment un excellent documentaire qui même avait la capacité, je trouve moi, d'apaiser les esprits en termes d'échange, mais qui parle vraiment du sujet, puisque les femmes que j'ai vues qui étaient victimes étaient extrêmement bouleversées et n'ont pas obligatoirement envie de voir une deuxième fois le film.
Ça, c'est les violences conjugales. Et puis alors, les violences ordinaires, c'est dans la vie professionnelle, dans le bus, en allant chercher son pain, tout le temps dans la
l'éducation,
vie quotidienne.
Dans l'éducation, en étant obligé de jouer avec une poupée plutôt qu'avec des outils, dans l'orientation scolaire, en étant amené à choisir certains métiers plutôt que d'autres. Bien sûr, dans le monde professionnel, avec des inégalités d'accès à des postes à responsabilité et des inégalités à travail égal où on n'arrive même pas encore à un salaire égal. On parlait à une époque du tiers en moins et du salaire familial. C'est-à-dire le salaire de la femme était un appoint et donc elle gagnait un tiers de moins parce qu'on considérait que c'était un appoint. On considérait que la femme était la femme d'un homme, toujours. Déjà, on n'imaginait pas une femme seule. Et une femme, dès qu'elle était mariée, et on en est encore là au niveau du droit, la femme est considérée comme une mineure. Était considérée comme une mineure. On a le droit de vote depuis la fin de la guerre de 40 seulement. Le droit d'ouvrir un compte en banque sous l'autorisation de son mari, il me semble depuis les années 60 seulement. Le droit de travailler sans l'autorisation du mari. Tout ça, c'est des choses qui sont récentes. Et il y a beaucoup de stéréotypes qui sont véhiculés et qui sont à l'origine de violences, tout simplement parce qu'elles paraissent tellement normales, tellement ordinaires, qu'on ne voit plus que ce sont des violences. Beaucoup d'hommes ont été éduqués dans l'idée qu'ils devaient être forts, et beaucoup de femmes ont été éduquées dans l'idée qu'elles étaient là pour assister l'homme, soutenir l'homme, faciliter sa vie professionnelle, voire sexuelle, disons-le. Et tout ça paraît normal. Normal, alors on peut dire normal, oui, puisque la norme, c'est ce qui arrive le plus souvent. La norme, c'est le milieu. Donc oui, c'est normal. La plupart des gens ont été éduqués pour vivre comme ça et continuent à appliquer ça comme si on ne pouvait pas vivre autrement. Mais acceptable, de mon point de vue, non. De mon point de vue, ce n'est pas acceptable et il faut faire évoluer les mentalités pour que les femmes aient le droit de mener leur vie au même titre que les hommes, avec leurs particularités, leurs personnalités et le droit de choisir et de participer à la vie sociale et politique.
Vaste programme et c'est vrai que si tu ne peux nier quand même, d'ailleurs tu l'as dit toi-même, qu'il y a des progrès, depuis le Moyen-Âge, il y a encore de quoi faire.
Il y a de quoi faire en France déjà. Et puis alors, quand on regarde la condition des femmes dans le monde, quand on voit qu'au moment où elles croient accéder à la démocratie, elles se retrouvent à nouveau muselées, plus que muselées parfois, je pense que nous avons de la chance en France d'avoir vu une évolution de notre condition et c'est pas la chance qui est accordée à toutes les femmes puisque dans certains pays elles n'ont pas accès à l'école, à la culture, au savoir. Donc ça pour moi c'est des violences ordinaires faites aux femmes.
Alors, cette cause est noble et il n'y a aucun souci. Enfin, je l'aperçois, je pense que nos éditeurs la comprennent, enfin, chacun à sa manière. Maintenant, comment faire en sorte pour que ces idées changent, ces comportements changent, cette façon de se comporter entre êtres différents? Et je vois que tu es venu avec un certain nombre d'outils supplémentaires qui sont des superbes petites documentations. Je vois un magnifique qui s'appelle « Les chemins de l'égalité », un autre qui s'appelle « Pour bousculer les stéréotypes filles-garçons », Un autre, c'est un manuel de résistance aux stéréotypes sexistes en entreprise. Et enfin, un dernier petit qui a l'air d'être assez percutant, qui s'appelle Refuser les violences conjugales. Mmh. Donc, ce sont des documentations qui ont été bien conçues, j'ai l'impression, et que vous communiquez.
Que nous tenons à disposition des personnes, qui sont diffusées par le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles et par le droit des femmes et des familles et la chargée de mission en préfecture, Madame Kölsch. C'est vrai que pour moi, il y a faire face aux problèmes quand ils sont là et puis il y a comment éviter que les problèmes arrivent, d'où lutter contre les stéréotypes, permettre aux différences d'exister, aussi bien pour les filles que pour les garçons, parce qu'on peut vivre dans le respect qu'à partir du moment où tout le monde sent qu'il peut choisir et s'épanouir en toute liberté, dans le respect des autres. Donc je pense que les stéréotypes font autant pour les garçons que pour les filles, d'où le fait que l'éducation, pour moi, ça commence au moment de l'éducation. Et le livre, c'est une petite brochure qui est éditée toutes les années, les 100 livres pour la jeunesse pour bousculer les stéréotypes. C'est des livres donc qui permettent d'aborder les questions de stéréotypes du genre, par rapport au genre, avec les jeunes enfants et qui sont testés par une association de lecture qui s'est confiée à des volontaires en fait. Et donc on sélectionne une centaine de livres qui permettent d'aborder le sujet. Et pour aller plus loin, d'ailleurs, cette année, il va y avoir, le 9 décembre à Valence, sera présentée pour la première fois une filmographie aussi pour lutter contre les stéréotypes qui a été faite en collaboration avec la Fédération des œuvres laïques. Et j'espère qu'on arrivera à organiser une présentation de cette filmographie. Adi.
Mais tu m'avais cité un petit exemple de...
Ah là. Alors, moi j'allais parler des chemins de l'égalité parce qu'il est tout récent. Il a été édité par le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Et il est sorti au mois d'octobre, le 11 octobre je crois. Il est très bien fait parce qu'il montre le chemin parcouru et en quoi consistent les inégalités, d'où elles viennent. Parfois, par exemple, on voit que les femmes, au moment de la Révolution, se sont fait voler leur droit d'être humain. C'est-à-dire, on a parlé du droit des... comment on appelle ça, le droit, aux droits des hommes.
Liberté, égalité, fraternité, mais pas les droits des femmes.
Voilà, comme disait Coluche, on est tous égaux, mais il y en a qui le sont plus que d'autres. Je trouve que c'est exactement ça. Non, au moment de la Révolution, les femmes, il y en a, on voit Olympe de Gouges qui a été carrément guillotinée. Les femmes demandaient à participer à la vie de la collectivité, de la vie démocratique, et on considérait que c'était pas leur place. Donc elles se sont fait voler leur fonction de citoyenne à part entière, et elles sont devenues très rapidement mineures avec la loi Napoléon, quoi.
Donc ça se voit dans ce petit fascicule qui s'appelle « Les chemins de l'égalité ».
Oui.
Je vois un certain nombre de volets dans lesquels, effectivement, on retrouve ces différences de traitement, ces inégalités, dans l'autorité parentale, dans la vie professionnelle, dans la vie à deux, dans l'orientation scolaire.
Dans la vie sociale et politique, dans
les pratiques
les temps.
Sportives, culturelles, et je vois un dernier, dans les médias aussi.
Oui, oui.
Et puis dans la vie politique, hein. On n'a pas encore eu de présidente de la République, par exemple.
Nous, non. Dans d'autres pays, oui. On y arrivait quand même. On a failli avoir une présidente. Et il y a aussi dans le temps consacré à la communauté, quand des gens vivent en famille, on constate que les temps consacrés par les hommes restent largement inférieurs aux tâches, dans les tâches
ménagères.
Voilà, ménagères entre autres, mais garde d'enfants, etc. Que celle des femmes. Ça, il y a une évaluation de ça. Donc, je trouve qu'il est intéressant ce petit fascicule on en a distribué pendant le Festival du Genre puisqu'il venait de sortir et pendant la présence de la troupe de théâtre Les Féroces.
Donc on peut renouveler l'appel aux auditeurs qui sont intéressés par ce sujet. Allez donc voir les collectifs à l'espace social. Donc ce sera le vendredi. Voilà.
Alors là, le vendredi, on sera présente, oui, pendant le vendredi matin, pendant la permanence du CIF. Mais de toute façon, Isabelle, qui est à l'accueil de l'espace social, fait un remarquable travail d'orientation des personnes. Donc, pourra guider vers la documentation ou nous interpeller si quelqu'un a besoin d'aide. C'est ce qu'elle fait déjà. Moi, il m'arrive régulièrement de rappeler des personnes à leur demande pour savoir si elles ont vraiment ouvert toutes les portes qui étaient nécessaires. Et alors, le document dont tu parlais tout à l'heure, qui est « Refuser les violences conjugales », qui est un petit document qui a été fait à un tout petit format de poche pour pouvoir être discret et glisser dans une poche, qui permet de se rendre compte si oui ou non on est susceptible d'être victime de violences conjugales surtout, puisque les violences, ce n'est pas seulement les coups, c'est aussi des mots, c'est aussi de ne pas avoir accès à l'argent du foyer, c'est aussi de ne pas avoir accès à l'information, voire même au courrier. Donc tout ça, c'est très très bien fait. Par exemple, quelles sont les questions? Si je me dis tout le temps que c'est de ma faute, que parfois il est gentil, que je l'aime, que c'est un bon père, qu'il a un problème mais que je vais l'aider, que c'était la dernière fois qu'il me faisait ça, qu'il va arrêter de me faire mal, que moi je dois faire des efforts pour qu'il n'ait plus l'occasion d'être violent, que la violence des hommes a toujours existé et qu'on n'y peut rien. Si je me dis que les enfants ne souffrent pas de la situation, si j'ai honte et que je ne pourrai jamais en parler, et si je me dis que je n'en peux plus, il est vraisemblable que je suis victime de violence. Et si j'entends régulièrement « tu es nulle, tu ne ressembles à rien, tout est de ta faute, tu es folle, tu l'as bien cherché, tu m'appartiens, personne ne te croira, je ne recommencerai plus. Tu n'as pas le droit de me quitter. Je vais changer. Tu ne reverras pas tes enfants. Je vais me tuer si tu pars. Je vais te tuer si tu essayes de partir. Il est vraisemblable que je suis victime de violence. » Ça, c'est dans le petit fascicule. C'est pas grand-chose, mais c'est frappant. Et il y a des conseils qui sont donnés si vous envisagez de partir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que au moment où vous envisagez de partir, si jamais vous annoncez ce que vous voulez faire, c'est là que le danger est le plus grand. Donc, il y a des conseils. Qu'est-ce qu'il faut préparer pour pouvoir partir le moment venu, dans des bonnes conditions?
Donc, n'hésitez pas à aller chercher ces petites documentations et aller rencontrer les collectives à l'ESCDD. On a parlé tout à l'heure aussi du film que vous avez déjà passé et qui repassera le lundi 24 novembre à 17h30, « Violence conjugale en guise d'amour ».
Oui.
Peut-être pourrais-tu maintenant, si cela ne te dérangeait pas, bien sûr, parler aussi de ce qui va se passer le mercredi 26 novembre de 11h30 à 16h30, à savoir un patchwork sur le thème « Les violences ordinaires faites aux femmes ». Que va-t-il s'y passer au juste?
Alors en fait, on va arriver, je vais amener un tas de magazines qu'on a déjà récoltés, mais ça n'empêche pas d'en amener d'autres. Il y aura des ciseaux, il y aura des épingles de couturière et un grand tissu sur lequel nous pourrons, tous les participants et participantes, pourront agrafer des images qui représentent ce qu'elles vivent comme étant des violences apparemment ordinaires, des choses qui se passent couramment et qu'elles vivent comme des violences. Et cette œuvre, parce que c'est une création collective, va servir de base à des échanges qui seront animés par Marie-Madeleine Kölsch, donc la chargée de mission aux droits des femmes, et moi-même.
Et ce tableau final, que deviendra-t-il?
Ah ben, je pense qu'on va en faire une belle photo déjà, et puis peut-être qu'il sera dans l'endroit qu'on utilise pour faire nos permanences.
Parle-moi un peu des membres qui constituent les collectifs. Vous êtes beaucoup, vous êtes motivés?
Alors beaucoup non, motivés oui. Et puis on ne peut pas parler de ça comme étant quelque chose de statique, puisque les collectifs, c'est des personnes qui se joignent à nous pendant un certain temps, qui apportent leurs compétences, leurs volontés, et puis qui partent vers d'autres actions, voire même une vie professionnelle qui les empêche d'être présentes. Donc ça tourne à une dizaine de personnes qui se renouvellent régulièrement. Et comme on est bénévole, on vient d'horizons professionnels différents. Parfois quand même le milieu d'éducation, le milieu du social qui nous sert pas mal. Et nous avons mis en place un cycle de formation des bénévoles, entre autres sur les violences conjugales. Donc on a fait une approche juridique et psychologique des violences conjugales. On est allé au tribunal, assister à des confrontations, à des jugements. On a appris beaucoup de choses. On a aussi le projet, puisqu'on n'a pas encore pu le concrétiser, sauf à titre personnel, de développer notre capacité d'écoute bienveillante et de gestion des conflits.
Et ça se voit dans la qualité de vos prestations, de votre conseil?
Oui, parce que justement, on n'a pas beaucoup de conseils à part orienter les gens vers les bonnes portes et surtout permettre de s'exprimer et de poser son paquet. Notre rôle à nous, c'est de permettre à des personnes de poser leur paquet et de pas se débattre seule dans quelque chose qui paraît insurmontable. Voilà. Donc vraiment, la première étape pour nous, c'est l'écoute bienveillante et sans jugement et sans conseil. Alors, ça, c'est très difficile parce que c'est pas naturel. De ne pas donner de conseils, c'est pas naturel. Très facilement, on est tenté d'écouter puis dire « Ah bah oui, justement, moi, etc. » Non, non. C'est on est centré sur l'autre quand on écoute. Et ça, ça s'apprend.
Vous avez une permanence le vendredi. Hop, une urgence, une femme est confrontée à des violences ou dans la vie ordinaire ou dans sa vie conjugale. Est-ce que tu aurais un numéro d'urgence, une procédure à suivre pour les aider 24 heures sur 24 ?
3919. Le 3919, c'est un numéro national et je peux dire, pour l'avoir déjà et avoir déjà mis un téléphone entre les mains de plusieurs femmes qui en avaient besoin, que c'est très efficace et que justement, ça permet d'être anonyme et d'obtenir d'excellents conseils et une très bonne écoute. Donc, en cas d'urgence, dans le cas de violence conjugale, le 3919, en cas de violence en général d'ailleurs. Autre chose, ces petites plaquettes-là, refuser les violences conjugales, à l'intérieur sont glissées tout un tas d'informations, de numéros de téléphone qu'on peut utiliser. L'urgence hébergement, c'est le 115, quand vraiment on a besoin de trouver. Et entre autres, je sais que depuis très peu, le CIF de Valence a mis en place un accueil d'urgence sécurisé. Par le 115, on arrive là où il y a de la place dans un hébergement d'urgence. D'ailleurs, des personnes peuvent arriver à 10 par le 115, tout comme on peut arriver à l'hébergement d'urgence de Valence grâce au 115, où depuis très peu, il existe un hébergement pour les femmes victimes de violences et en toute sécurité.
C'est très intéressant. Merci Pascal de nous transmettre toutes ces informations. Je sais que tu avais peut-être une, voire deux annonces à faire sur ce genre de considération.
Oui, ben, j'ai été destinataire d'une déclaration de la Marche mondiale des femmes d'Europe qui était réunie au Pays Basque le 10, 11 et 12 octobre à Saint-Sébastien. Et je vais vous lire cette déclaration. Il faut savoir que la Marche mondiale des femmes, je crois que ça a commencé en 2005. Et ça se déroule tous les 5 ans avec un rendez-vous commun. Et les femmes marchent pour leur liberté et le respect de leurs droits au niveau international. Parce que je disais tout à l'heure, on a de la chance en France de voir nos droits s'améliorer, mais c'est pas le cas partout. Donc là, c'est la solidarité avec les femmes kurdes en lutte. Nous, 60 femmes de 18 pays d'Europe réunies à Donostia, au Pays Basque, à l'occasion de la coordination européenne de la Marche mondiale des femmes, nous saluons la résistance des femmes kurdes de Kobane, à la frontière de la Turquie et de la Syrie, où se développent entre Kurdes, Syriens, Arméniens, Yézidis, Arabes et Tchétchènes des alternatives concrètes au système capitaliste, colonial et patriarcal, dans une coexistence pacifique entre plusieurs religions et dans le respect d'un partage démocratique du leadership à tous les niveaux. Ce modèle alternatif est défendu par la résistance courageuse du YPG, Unité de protection du peuple, et YPJ, composé par les femmes. Nous condamnons la violation des droits des femmes et des droits humains fondamentaux, ainsi que toutes les formes de fondamentalisme religieux, ethnique ou politique. Nous dénonçons l'augmentation des alliances avec les secteurs ultra-conservateurs, y compris le fondamentalisme religieux, qui présente le renforcement du modèle capitaliste et patriarcal comme une solution à la crise. Nous continuons notre lutte dans les régions en conflit, pour en finir avec la violence et l'esclavage des femmes utilisées comme instrument de guerre. Nous construisons un autre monde d'où sont éliminées toutes les formes de domination, d'exploitation ou d'exclusion d'une personne par une autre, d'un groupe par un autre, d'une minorité par la majorité, d'une nation par une autre. Face aux récentes attaques contre les alternatives et contre les droits des femmes, nous avons décidé de lancer la 4e action internationale de la Marche mondiale des femmes le 8 mars 2015 au Kurdistan, avec l'objectif de soutenir les femmes kurdes dans leur lutte pour l'autonomie et l'autodétermination de leur corps et territoire. Nous lançons un appel à toutes les femmes du monde pour participer à la caravane féministe européenne afin de renforcer et rendre visible la résistance et les alternatives portées par les femmes. Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche.
Voilà qui est dit.
J'ai lu. Et c'est vrai que je suis régulièrement interpellée par des gens que je rencontre et qui voyagent actuellement. Entre autres, des gens qui accueillent, il y a une association qui s'appelle Alvan, qui accueille des personnes réfugiées de Syrie, qui sont prises en étau entre les Kurdes et les intégristes et les gouvernementaux, et qui non plus n'arrivent pas à exister. Alors le gros problème des femmes, c'est que les enfants sont considérés comme une marchandise et un outil de guerre, c'est-à-dire on leur enlève leurs enfants pour les enrôler dans les troupes. C'est une violence terrible que subissent les femmes à l'étranger. De la même façon, j'ai entendu parler d'un groupe de femmes tchétchènes en Géorgie qui rencontrent le même problème, et par contre qui relativisent la façon de voir ce que je considère, moi, comme une violence faite à moi en tant que femme et à d'autres femmes que je connais, qui est d'être au service de l'homme, qui pour elle est au contraire une façon d'exister et d'avoir un domaine qui leur est réservé.
Oui, c'est bien que vous autres femmes, vous vouliez assumer votre propre place. Néanmoins, depuis que vous conduisez vos propres vies, nous autres pauvres hommes pouvons nous sentir mal épaulés.
Comment prouver votre virilité dans un monde où les femmes prennent leur place? Ça devient difficile.
Oui, non. Et d'ailleurs, ça se retrouve concrètement. Je ne sais pas, il y a des statistiques hallucinantes sur la délinquance. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que j'ai bien vu ça la semaine dernière. 86% des faits délictueux sont le fait d'hommes.
Ah oui.
Bon, il en reste 14% de femmes, mais je veux dire...
Oui, c'est pour ça que, justement, quand on parle de l'importance de la présence des femmes dans la démocratie et dans la vie publique, c'est que les femmes, on est différents, les hommes et les femmes. Et les femmes, d'elles-mêmes, naturellement, ont la notion du temps, de la patience, du respect de la vie, du prix de la vie. Où les hommes ont été élevés beaucoup plus de façon à trancher, à imposer, à montrer qu'ils sont forts. Et quand les femmes sont dans la vie démocratique, on peut imaginer, quand elles n'ont pas trop intégré le comportement masculin pour trouver leur place dans un monde qui a ses valeurs masculines.
Des omasses. On appelle ça des omasses.
Ah oui, je ne connaissais pas l'expression. Mais voilà, les femmes auront une société gérée par des femmes est beaucoup plus porteuse de paix et de tentatives de conciliation.
Tu abonderais dans cette fameuse maxime que le futur de l'humanité, enfin les femmes représentaient le futur...
Alors Aragon, la femme est l'avenir de l'homme, voilà. Entonné par notre chanteur dont j'oublie le nom.
Léo
parce
Ferré.
Que... Non, c'est pas Léo Ferré.
Ah, c'est pas...
La femme est l'avenir de l'homme, c'était dans le sud de l'Ardèche, en Trègue.
Moi, je suis toujours... Jean Ferrat.
Voilà, Jean Ferrat. Et moi, alors, j'ai une grosse difficulté avec Jean Ferrat. C'est que Jean Ferrat était l'époux de Christine Sèvres. Et qu'à partir du jour où Christine Sèvres a été l'épouse de Jean Ferrat, on l'a appelée Madame Ferrat. Et on a oublié qu'elle était une personne à part entière. Et apparemment, elle s'est très mal remise de cet état de fait. Donc, autant j'aime la poésie, la voix de Jean Ferrat, autant ce culte qu'il y a autour de lui me pose problème, surtout depuis que je suis allée à Entraigues et que j'ai écouté des personnes me parler de lui.
Ah mais oui, la perfection n'étant pas de ce monde, et puis... Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, encore une fois, bravo à vous de vous émanciper, mais nous sommes des êtres très fragiles, nous autres hommes. Si on peut plus vous exploiter, qu'est-ce qu'on va devenir?
Non, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi, moi ça me préoccupe beaucoup, ce fait que les hommes d'aujourd'hui ont été élevés par des femmes aussi. C'est-à-dire que les femmes portent une responsabilité dans cette situation à la fois d'infantilisation et d'obligation d'être toujours à la hauteur et fort et surtout pas d'être une femmelette. Les femmes portent aussi cette responsabilité. Je vois dans les pays du Maghreb, par exemple, où les femmes, elles se tiennent à l'arrière, mais c'est quand même un fort pouvoir sur les enfants.
D'où, hein, pour revenir sur ce que tu disais, on ne s'en sortira que par l'éducation, oui. Et en passant des messages de communication non violente, de respect d'autrui, oui. Chacun a le droit de vivre, etc. Et...
Ah oui. Absolument, c'est l'apprentissage du respect qui est prioritaire. Et puis, peut-être aussi sortir de l'individualisme et ouvrir les œillères, ouvrir un peu son champ de vision et s'occuper du bien commun et pas seulement avoir des rapports de dominant-dominé ou de guerre.
Ça me donne envie de passer un petit titre de Colette Magny.
Ah oui, hein, oui.
Voilà, je sais pas, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais il y en a un qui est tout à fait dans cette lignée-là.
Ah ben génial.
Donc nous écoutons Colette Magny et je vous dirai plus tard ce qu'est ce morceau, mais c'est à fond là-dedans. C'est quand la femme cessera de se faire marcher dessus, quoi, grosso modo.
Ah ben c'est génial.
Sartre, Suarez, Carlyle, Alain. Les cris qui se savent inécoutés enveloppent un horrible silence. Tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux vomir, tu ne sauras jamais pourquoi tu es né. Tu peux gémir, tu peux cracher, tu peux maudire, tu ne sauras jamais pourquoi tu es né. Décadence, décadence, décadence. Le problème n'est pas celui du citoyen, mais celui de l'homme. Lorsque l'humanité sera enfin sage, nous passerons de la compétition dans l'individualisme à l'individualité dans la coopération. Renaissance, renaissance, renaissance. Quand tu pourras douter et croire, douter et agir, douter et vouloir. Tu seras sauvé lorsque l'humanité sera enfin sage. Nous passerons de la compétition dans l'individualisme à l'individualité dans la coopération. Paix sur la terre aux hommes, aux cœurs ouverts.
Très bien, et bien écoute, sur Colette Magny, allons-nous nous quitter. Pascal, je te remercie d'être passé à la radio et nous attendons à RDWA avec impatience une émission chronique assurée par votre collectif pour informer et visibiliser votre action sur le DIWA, parce que on en revient toujours là, hein. Il y a tellement d'initiatives louables, mais personne ne le sait.
Voilà, donc c'est exactement ça. Non seulement nous voulons venir régulièrement, et puis je crois que nous avons pris rendez-vous pour venir aussi pour une autre interview avec la juriste du CIF pour donner des informations concrètes concernant les violences faites aux femmes et les droits des femmes.
Alors, dernière toute petite question avant de se quitter, Pascal. Quand tu parles du CIF, là, j'ai fait une recherche internet parce que tout à l'heure, on parlait de leur numéro de téléphone. J'ai tapé CIF Valence Famille et je ne suis tombé sur pas grand-chose. Je suis tombé sur CIDF.
C'est ça.
Ah, c'est le CIDF.
Centre d'information sur les droits des femmes et des familles.
Qui est basé à Valence. Et là, vous trouvez un numéro de téléphone. Et si vous êtes vraiment dans le pétrin, mesdames, mesdemoiselles, n'hésitez pas.
Il y a des permanences. Normalement, j'ai cru lire même qu'elles peuvent mener des entretiens par Skype. Donc, il y a des permanences d'écoute, de conseils tous les jours. Alors qu'à 10, c'est qu'une fois tous les 15 jours. Elles mettent à disposition, c'est très nouveau aussi, dans les gendarmeries, il y a des intervenantes sociales. Il y a une intervenante sociale et une psychologue qui viennent en soutien aux gendarmes. Et pour avoir été amenée à accompagner des femmes dans plusieurs gendarmeries, je constate que ça commence à rentrer dans les mœurs et à être un véritable soutien. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui évoluent dans le département. Après, on a une psychologue et une intervenante sociale pour tout le département. Donc voilà, ça a des limites, mais ça a le mérite d'exister.
Merci au collectif en tout cas d'exister aussi. Et rappelons une ultime fois, lundi 24 novembre à 17h30, salle ABC de l'ESCDD, ce film « Violence conjugale en guise d'amour » qui sera suivi d'un débat. Et puis mercredi 26 novembre de 11h30 à 16h à la salle communautaire, expression collective patchwork sur le thème les violences ordinaires faites aux femmes.
Et pendant toute la semaine, une exposition d'images et de textes avec des articles sur le sujet des violences faites aux femmes.
Merci Pascal. À très bientôt.
Au revoir.
Interview. 1 Interview.
Hey, the bird.
L'interview du jour.